Eh bien, chers amis, c'est un grand plaisir et une joie que de vous revoir après une année. Nous ne pensions pas revenir si vite de ce côté du monde. Mais voilà, le Seigneur en a voulu ainsi. En plus de cela, nous sommes venus de ce côté du monde pour le mariage de notre petit-fils aux États-Unis. Et il voulait que son grand-papa fasse son mariage. Alors voilà, grand-papa est venu avec grand-maman. Et c'était une joie que de célébrer son mariage avec ce jeune homme. Il a terminé ses études, il a 22 ans, et avec sa jeune épouse, ils désirent tous les deux servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre dans la moisson. Nous venons de faire presque 2 mois aux États-Unis, d'un bout à l'autre du pays, et nous voilà de retour maintenant, et de retour pour retourner au Congo le 6 octobre, là où le Seigneur nous a placés, où il y a un immense travail à accomplir. J'ai souvent pensé que nous sommes si petits, si insignifiants, mais nous avons un grand Dieu, un grand Dieu. Tous nos efforts sont insuffisants. Il faut plus que nos efforts. Il faut la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Il faut quelque chose, une dimension particulière. Lorsque nous voyons comme le monde aujourd'hui divague, la violence partout, et la fuite en avant, en rejetant Dieu d'une façon ou d'une autre, on est religieux, mais on s'attache seulement à une religion qui, dans le fond, est morte et n'exprime plus rien. Nous voyons combien il est nécessaire, plus que jamais, de resserrer nos rangs et d'essayer de gagner le plus d'hommes et de femmes à Jésus-Christ le Seigneur. Il est plus qu'une religion, croyez-moi, il est le sauveur du monde. Et celui qui s'attache à lui trouvera ce dont il a besoin, la satisfaction, la joie, la paix, le bonheur. Nos pays qu'on disait chrétiens deviennent païens aujourd'hui. Malheureusement, lorsqu'on regarde nos pays, n'est-ce pas, c'est le paganisme, un nouveau paganisme moderne, le matérialisme, l'occultisme qui pénètre partout, et l'indifférence et la soi-disant liberté de faire n'importe quoi tel qu'on a envie de le faire, et la dégradation morale de la société. Il y a besoin d'un changement. Et ce changement, nous pouvons le trouver qu'en Jésus-Christ le Seigneur. Il est le seul espoir du monde, Jésus le Seigneur. C'est merveilleux de voir ce groupe que vous êtes ici, que le Seigneur vous aide à aller de l'avant et à devenir des conquérants. Souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, nous sommes engagés dans une armée dont lui est le chef. Et dans cette armée, il y a la discipline. Dans cette armée, il y a l'obéissance. L'obéissance à quoi ? À sa parole. Voilà, à sa parole. Et non pas à des rudiments humains de la philosophie humaine qui mènent à rien. Nous le voyons aujourd'hui dans notre civilisation. Tellement éduquée et civilisée, mais plus que jamais malheureuse. Divorce sur divorce, remariage sur remariage, larmes et souffrances, maladies, sida. Et si on doit le nommer, quoi donc encore ? La violence, la pénétration de religions extrémistes qui viennent au milieu de nous pour détruire, pour tuer, pour imposer, pour enlever toute liberté, quelle qu'elle soit. Non, 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 non. La vraie, véritable liberté est en Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a un jugement sur les pays soi-disant chrétiens qui admettent n'importe quoi. Sous prétexte de démocratie. Moi, je ne crois plus à la démocratie. J'ai vu le résultat de la démocratie en Afrique. C'est une porte ouverte à la corruption la plus abjecte. C'est tout. Il nous faut un autre régime. J'allais dire, vous parlez politique, oui, celle du royaume des cieux. Le régime qu'il nous faut, c'est le régime nouveau du roi des rois et du seigneur des seigneurs qui a dit qu'il viendrait un jour. Il va venir. Il viendra pour rétablir son royaume avec ceux qui le reçoivent, avec ceux qui l'acceptent. Parce que dans son régime, il n'y a pas de parti d'opposition. Oh non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de parti d'opposition dans le régime du roi et du seigneur des seigneurs. Voilà. Parce que ceux qui sont opposés à lui sont écartés automatiquement. Frères et sœurs, j'attends le roi. Sainteté, justice, vérité, transparence, honneur, Nous avons oublié ces valeurs dans nos républiques. Il faut revenir au fondement, au vrai fondement qui est Jésus-Christ. Merci pour le plaisir et l'honneur que de pouvoir être avec vous aujourd'hui. C'est une grâce du Seigneur. Si vous croyez en Jésus-Christ, nous sommes de la même tribu, nous sommes de la même famille, de la famille et de la culture du royaume des cieux. Voilà. Il n'y en a qu'une seule culture valable, celle du royaume des cieux, celle qui se trouve dans sa parole. Et puis, je suis venu avec ma digne compagne depuis 52 ans, ma digne compagne que j'aime tendrement. C'est curieux, comme ça augmente avec les années. Malgré les rides qui se creusent, malgré le poids qui augmente, malgré les difficultés à marcher, tout ça, c'est peu de choses. L'amour, c'est quelque chose qui grandit avec les années. Et alors que les années passent, on réalise que dans le fond, le véritable amour n'est pas celui qu'on voit avec les yeux, « Oh, elle est belle, oh, il est beau. » Non, c'est quelque chose, une valeur cachée à l'intérieur du cœur. Et cette valeur, je l'ai trouvée dans cette compagne que le Seigneur m'a donnée. Il est bon, il est merveilleux. Elle va vous dire deux, trois mots.
Gloire au Seigneur, je suis contente d'être avec vous et parmi vous et de vous revoir. En effet, nous n'avons pas pensé que seulement dans une année qu'on était on sera de retour ici dans votre beau pays. Je me réjouis des fleurs que je vois partout, les ronds-points qui sont si jolis, pleins de fleurs. Vraiment, c'est magnifique. Parce qu'on vient des États-Unis et il y avait bien de chaleur et il n'y avait pas tant de fleurs qu'ici. Et moi, je suis de la Hollande, le pays des tulipes et des fleurs. Et j'aime vraiment des fleurs. Et j'aime d'être parmi vous. Et merci aussi au pasteur qui a demandé que je dirais quelque chose. Oh, il y a tellement de choses à dire que je n'ose pas trop parler parce qu'autrement, mon mari n'aurait pas de place. Je demande toujours sa permission. Vous voyez, la parole de Dieu dit, « Femme, soyez obéir à votre mari. » Comment ?« Soumise. » Oh, bon, c'est la même chose. Et alors, vous savez, parfois, les pasteurs africains aiment bien redire ça. Et si on est marié avec un monsieur africain, les dames savent bien, comme souvent les messieurs africains, ils aiment bien ça, c'est dans leur tradition. Alors, je viens de découvrir une autre traduction. C'est écrit dans la parole de Dieu, « Marie, aimez vos femmes ». Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, « Femme, aime votre mari ». Alors, premièrement, si les maris sont obéissants, sur l'andaise, hein? Alors quelquefois de français, excusez-moi. Alors, si les maris sont obéissants, la femme, elle est tellement ravie qu'elle veut plaire à son mari. Et quand elle plaît à son mari, elle fait tout ce qu'il veut bien. Alors, il n'y a pas besoin de donner un ordre, n'est-ce pas? Alors, je fais une autre traduction. Le mari aime sa femme et la maman, la femme, la maman, on dit en Afrique, la dame, elle plaît à son mari. Et voilà, je crois que c'est le succès de notre mariage. Parce que s'il y a des jeunes mariés ici, s'il n'est pas 20 ans, c'est 4 fois 20 ans plus 3, eh bien, mon mari me l'a dit plusieurs fois par jour. Et c'est ça, je crois que c'est un des succès de notre mariage. Parce que il m'aime, et bien sûr, moi, je l'aime aussi. Mais moi, ce n'était pas une obligation, je le fais automatiquement. Voilà, c'est peut-être une bizarre introduction, parce qu'on est supposé de parler de l'Afrique, et peut-être mon mari va le faire, mais nous, nous sommes très heureux que le Seigneur nous a appelés dans ce pays, et que nous serons là jusqu'à la fin de notre vie. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, notre motto est de « Don't retire, but refire. Hein, » pas de retraite, mais de se re-enflammer pour le Seigneur. Et nous sommes très contentes que le Seigneur nous donne la force. Moi-même, pour ainsi dire, je suis jamais malade, mon mari non plus. Et le Seigneur nous donne plein de force pour aller en avance. Bon, c'est vrai, je ne marche pas comme je veux, mais je vais faire des exercices, ça va venir. Et je peux vous dire, par la grâce de Dieu, je suis même mieux qu'il y a 2 ans. Le Seigneur est en train de renouveler mes forces. Parce que vous vous rendez compte, j'ai attrapé la maladie, qu'est-ce que c'était mononucléose. Après que c'est maladie des jeunes étudiants. Eh bien, moi, je l'ai eu quand j'avais 70 ans passés. Alors, ça m'avait fatigué pendant quelques années. Mais c'est fini et le Seigneur me redonne la force. Le Seigneur fait des grandes choses en Afrique. Le frère a dit que on a des centaines et des centaines d'églises, des centaines d'églises dans les langues nationales où le Seigneur travaille merveilleusement, des centaines d'églises qui sont francophones, seulement francophones. Il y a 26, 27 ans, quand on était à Dallas, nous avons fait une carte de prière pour les gens à donner, pour prier pour nous. Et là, on avait mis derrière notre but est d'avoir toutes les grandes villes de Congo, c'était en ce moment-là à Zaïre, d'avoir une église. Et nous avons la joie, c'est merveilleux, quand on a plus que 80 ans, nous avons la joie de le voir, c'est accompli. Et nous avons dit aussi une église francophone à Kinshasa. Tout ça s'est accompli. C'est magnifique quand on vient plus âgé. On va, surtout quand on marche avec le Seigneur, parce qu'on voit ce que le Seigneur fait, parce que nous avons un si grand Dieu. Et il y a des frères qui vont dans les régions où c'est difficile, où il y a des jalousies. Vous savez, les Africains sont beaucoup plus jaloux les uns des autres, entre leurs tribus. Il me semble que souvent, les Européens ou des Mundelés ou des Blancs, je ne sais pas s'il y a des Congolais ici, on dit Mundelés pour un Blanc. Et il y a des guerres de tribus au Congo terribles. On se tue de toutes sortes de façons et surtout aussi en silence avec le poison. Mais nos frères qui sont appelés pour apporter l'évangile, les pasteurs africains, congolais, eh bien, ils vont dans ces coins difficiles. Ils sont empoisonnés. Mais le Seigneur dit, si vous buvez quelque chose mortel, il vous le... Si on met sa confiance en lui, il vous guérira. Et aucun de nos pasteurs est mort de l'empoisonnement. Une de nos sœurs, elle est un grand poste dans le gouvernement. Le plus grand poste qui existe pour une dame, parce qu'une dame en Congo a un si grand poste, mais quelle jalousie! Ça, c'est pour les hommes. Ils sont très machos en Afrique. Eh bien, l'année dernière, elle était empoisonnée. Elle était malade à la mort, mais le Seigneur l'a relevé. Et c'est une grande aide aussi pour nous dans l'Église. Et j'aimerais vous dire encore une autre chose. Pour le Seigneur, il n'y a pas de distance pour faire des prodiges et des miracles. Quand, on peut le passer? Quand nous étions aux États-Unis, on était au milieu des États-Unis, on était à Minneapolis, et je recevais un appel de ma famille. Oh! La sœur Annie, elle a seulement 89 ans, ça fait 2 × 45 à peu près. Ah mais il faut calculer positif. Elle a seulement 2 × 45 l'année prochaine. Eh bien, on m'a dit, mais elle est gravement malade, il faut venir. Oh, elle est si malade, elle est si malade. Tout à coup. J'ai dit, mais si elle est si malade, elle sera morte avant que j'arrive. Et comment, des temps de vacances, de changer des avions. Et j'ai dit, mon mari a certaines obligations, certains amis qui l'attendent, à quelques villes, pas tellement, mais quelques-uns, parce que on n'était pas pour visiter vraiment des églises, c'était une visite familiale qu'on avait faite. Je dis certainement, je n'ai pas parlé avec lui, mais certainement qu'il ne va pas venir. Et pour moi, voyager toute seule, je n'ai pas tellement de facilité. Je ne marche pas encore comme je veux. Je dis, pourquoi il va venir si c'est si grave? Elle sera morte avant. Mais tu ne viendras pas pour l'enterrement? Je dis, mais elle ne saura rien. Si je suis la vie ou non. Et je ne voyais pas la nécessité, mais dans le fond, j'avais une paix dans mon cœur. Et malgré qu'ils me disent, ils disent, oh, c'est grave, et ceci, et cela, elle avait, tout à coup, elle avait de l'eau derrière ses poumons, derrière son cœur, elle a une importe infection de sa vessie, et que les médicaments ne réussissent pas. Et, une matinée, les médecins sont venus. Ils ont dit, madame, on a arrêté le traitement parce que ce n'est pas de succès. On a enlevé l'oxygène. Dit, c'est fini. Et ma sœur, elle a seulement 2 fois 45 ans bientôt, elle dit, mais docteur, médecin, je suis prête pour aller vers le Seigneur, mais je voudrais bien vivre encore quelques années. Bon, ils se sont consultés, ils ont dit, bon, on peut vous faire un traitement pendant 24 heures, et ça va réussir ou pas? Réussir ou pas? Il faut être prête que ça ne va pas réussir. Ben, dis, mais de toute façon, essayons le plus dur. Alléluia. Une semaine après, ça a réussi. Elle est à la maison. La semaine dernière, on l'a visitée. Elle est pleine de vitalité. Bien sûr, à cause de ce traitement vigoureux, elle est un peu faible, mais elle a plein de force et de joie. Mais un secret, je dois vous dire encore. Pendant ce temps, je l'ai téléphoné depuis Minneapolis, et pendant que c'était si grave, et elle m'a dit personnellement aussi, elle voudrait bien vivre encore quelques années. J'ai dit, pourquoi pas? C'est pas parce que les médecins disent que c'est fini. Peut-être. Moi, j'ai pensé, elle va, la vie est peut-être bientôt achevée, mais pas ce que ces hommes m'ont dit. Je trouve ça pas sympathique, la façon comme ils l'ont parlé, le moment de Seigneur. Et je disais à ma sœur, quand elle disait qu'elle voudrait bien vivre encore quelques années, j'ai dit, pourquoi pas? Est-ce que tu veux vivre, croire à un miracle? Elle dit, bien sûr. Je dis, moi, je crois aussi à un miracle. J'avais la paix dans mon cœur. Je dis, on va prier pour un miracle. Et ensemble, on a prié. Moi, depuis Minneapolis, là-bas, quelque part aux Pays-Bas, on a prié, et voilà le succès. Croyez à la puissance du Seigneur. Le Seigneur est le même. En Afrique, il fait des grandes choses, il fait des prodiges, des miracles, mais aussi par téléphone. D'un pays, d'un continent à un autre, le Seigneur est le même. Et ayez le courage de croire que Dieu est vrai. Oh, mon cœur est réjoui aussi qu'on va bientôt partir. C'est un peu plus difficile pour Marie parce que c'est lui qui fait toutes les prédications, plusieurs fois le dimanche. Plus que le travail grandit, plus qu'on a de travail, plus qu'on a de conseils d'administration, etc., etc. Mais le Seigneur nous donne des forces et nous avons des frères et sœurs merveilleux, merveilleux. Le nouvel administrateur que nous avons, il a étudié à Bruxelles. C'est un monsieur d'une tribu très macho, si je peux le dire, qui s'accepte surtout pas les femmes. Et je suis un peu fière. Il m'a dit, Madame Bernot, vous avez tellement d'expérience. Est-ce que je peux venir parler au moins 30 minutes par semaine avec vous? Vous voyez, quand on gagne le cœur de ceux avec lesquels on collabore. Et je suis un peu fière de ça. parce que je suis seulement femme. Je suis très humble, vous savez. C'est mieux que moi, je le dis. Non, je ne suis pas humble de moi-même. Le Seigneur m'aide. Et je suis très heureux dans le Seigneur et je vous encourage de vous engager avec lui de plus en plus. Parce que c'est dans l'obéissance qu'il y a la bénédiction. C'est dans l'obéissance à sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Comme ma femme vous l'a dit, nous travaillons au Congo depuis des années et des années. Du reste, je suis né moi-même au Gabon, en pleine brousse, dans l'hôpital de Dr. Albert Schweitzer, pour ceux qui le connaissent. La nouvelle génération n'en connaît pas grand-chose, mais l'ancienne savent très bien qui est Schweitzer, l'Alsacien, qui a fait un grand travail là-bas. Et puis, le Seigneur a voulu que je le serve en Afrique. Et voilà, maintenant, 57 ans que je prêche cet évangile en Afrique centrale. Merci Seigneur, et je puis dire que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Dieu sait ce qu'il fait. Et j'ai souvent pensé à cette vérité qui est que Dieu est obligé de travailler avec des hommes et des femmes imparfaits pour amener d'autres à la perfection et nous amener nous-mêmes à la perfection un jour, lorsqu'enfin nous serons devant lui. Nous sommes loin de penser que nous sommes des êtres parfaits et infaillibles. L'infaillibilité ne se trouve en aucun individu, quoi qu'il puisse le proclamer lui-même, mais l'infaillibilité est en Jésus-Christ seul. Et lorsqu'on vient à Jésus-Christ, nous marchons sur le chemin de la sanctification. Et la sanctification, c'est le chemin qui mène à la sainteté. Autrement dit, que celui qui se sanctifie encore. Voilà le principe de la parole de Dieu. Aujourd'hui saint en Jésus-Christ, demain encore plus saint. C'est un chemin qui monte, c'est un travail. Tant que nous sommes dans cette chair, nous avons un combat à mener contre la chair. Les désirs de la chair, les prérogatives prétentieuse de la chair, tout cela doit être crucifié à la croix. C'est pourquoi Paul, bien des fois, emploie ce terme d'être crucifié à la croix, d'être mort à nous-mêmes pour être vivant quant à Christ. Non pas crucifié une fois, mais chaque jour. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. C'est un combat continuel. Pourquoi ? Il y a une dualité en nous. D'un côté, la vieille nature. De l'autre côté, la nouvelle, à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Qui va prendre le dessus ? La nouvelle nature en Christ ou la vieille nature héritée de nos parents ? Et c'est là où il y a le combat que nous connaissons chacun d'entre nous. Si nous nourrissons la nouvelle nature, si nous nourrissons le nouvel homme, si nous cherchons la face de Dieu et que nous voulons le glorifier en toutes choses, croyez-moi, il se fortifiera et dominera le vieil homme, la vieille femme, cette nature que nous avons héritée de nos parents avec ses tares, car nous sommes tous des tarés, dans un domaine ou dans un autre. Nous sommes tous des tarés. Nous avons reçu de nos parents des mauvaises habitudes, une mauvaise culture. Ah, je crois, mes amis, je le vois tous les jours en Afrique, une mauvaise culture, des mauvaises habitudes, oui, ce sont des tares, ce sont des tares. Mais en Jésus-Christ, nous devons être transformés, caractère transformé, vie transformée, et grandir de plus en plus dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Voilà, nous avons chacun d'entre nous nos personnalités, nos caractères, il y a des choses à redire, etc. Moi, je sais très bien, j'ai eu des filles, j'avais tout le temps des choses à redire avec mes filles. Mais voilà, ça consiste, nous devons vivre une vie qui se renouvelle en Christ est grandir. Dès l'instant où on ne grandit plus, il y a recul. Il n'y a pas de statu quo dans la vie chrétienne. Soit on avance, soit on recule. Merci Seigneur. J'aimerais lire avec vous un passage un peu particulier de la parole de Dieu. Un passage dans lequel nous pouvons trouver beaucoup d'enseignements pour nous ce matin. Bon, en général, je prêche 45 minutes. Ma femme m'a pris à peu près 15 minutes. Je ne pensais pas qu'elle prendrait autant. Peu importe, mais je sais que vous allez me supporter. Et nous lisons ceci. Dans Actes chapitre 28, versets 1 à 6, il est écrit. Une fois saint et sauf, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Il s'agit du naufrage de Paul lorsqu'il se rendait à Rome auprès de César. Il avait fait appel à César. Il avait été accusé par les Juifs. Toutes sortes de fausses accusations. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu. Mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisque à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Nous arrêterons notre lecture. Là, si vous voulez savoir la suite, lisez votre Bible. Je vous encourage à lire la parole de Dieu. C'est une source de force. Nous avons dans notre église à Kinshasa, une église qui réunit tous les dimanches à peu près 8000 personnes ou plus, avec 3 cultes. Eh bien, nous avons poussé beaucoup les gens à lire la parole de Dieu. Nous avons un club de lecture de la parole de Dieu. Il couvre la lecture de la parole de Dieu pendant une année selon un programme précis. Et certains d'entre eux l'ont lu plusieurs fois, si bien que quand on prêche la parole, ils savent de quoi on parle. Et ils sont capables de défendre leur foi basée non sur des rudiments humains, mais basée sur la révélation divine. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Vous voulez savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire, l'interpréter? Eh bien, lisez la Bible 2, 3 fois, 10 fois. Petit à petit, vous allez comprendre. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Elle ne se contredit jamais. L'apôtre Paul, c'était un pharisien. C'était un homme très instruit. Il était docteur de la loi, docteur en théologie, un homme qui avait acquis beaucoup de connaissances religieuses, c'est vrai. Et c'était un homme juste. Oui, juste, car il obéissait à la loi prescrite par Moïse. Mais voilà, il y avait une autre dimension qu'il ne connaissait pas. Jusqu'au jour où il rencontra Jésus. Il n'a pas compris ce prédicateur qui venait de Nazareth, qui faisait des prodiges et des miracles. Certes, il avait entendu parler de lui bien des fois, par son message, par sa parole, par les miracles qui accompagnaient son ministère et ses hommes qui le suivaient. Mais il était un propre juste légaliste attaché à la loi mosaïque dont il n'avait pas compris l'esprit. Et combien à cette époque-là étaient des religieux attachés à la loi mosaïque, mais qui n'avaient pas compris l'esprit de la loi, la signification de la loi, et tout ce que les prophètes avaient dit concernant le Messie qui viendrait, oui, certes, pour délivrer Israël, mais non pas seulement Israël, le monde entier, à travers Israël. Dieu avait choisi un peuple parmi tant d'autres peuples, des nations, à travers lesquels il voulait se révéler au monde. Mais Israël a été détourné, s'est laissé détourner combien de fois par les peuples païens qui l'entouraient, en essayant de faire un genre de syncrétisme, de mélange inacceptable aux yeux de Dieu. Soit vous acceptez le Seigneur et toutes ses exigences, soit vous suivez votre propre route, telle que vous voulez, en mélangeant la religion et la tradition et l'occultisme et les idoles et tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est inacceptable pour Dieu. Avec Satan, on peut faire n'importe quoi. On peut être chrétien, on peut être fidèle dans une église, tout en faisant n'importe quoi dans le monde, tout en désobéissant aux commandements de Dieu, en mentant, en étant infidèle, en courant après les femmes ou les hommes, en faisant une vie telle que nous connaissons dans le monde. Là, ça, avec un Satan, c'est d'accord, mais pas avec Dieu. Nous devons choisir. Et si nous choisissons pour lui, nous devons vivre selon ses lois, ses règlements, selon sa parole et sa volonté. Ce n'est pas notre volonté qui doit primer, mais c'est sa volonté. Et là, alors, une porte nous est ouverte, une porte de bonheur, de joie, de vie. Et certes, ce n'est pas pénible que de le suivre. Je peux vous le dire, arrivé à l'âge où j'en suis aujourd'hui, après avoir servi le Seigneur tant d'années, je suis loin d'être un homme malheureux. Je suis heureux et je n'ai rien à envier au monde. J'ai trouvé en Jésus la paix, le bonheur, la joie. J'ai trouvé en Jésus tout ce dont j'ai besoin. Et je n'ai envie de rien de ce monde. Si j'ai besoin de choses du monde, de la vie de tous les jours, je me confie en lui. Il me donnera ce qui m'est nécessaire pour ma vie de chaque jour. Et il est fidèle et il répond aux prières. Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu réel. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion. C'est plus que cela. C'est le Sauveur du monde qui s'est abaissé au niveau des hommes pour se révéler à eux. Voilà. Et l'apôtre Paul, il a dû faire tout un cheminement, malgré sa religion, fanatique qu'il était, dans la loi mosaïque, ne comprenant pas les choses et les raisons pour lesquelles celui dont les prophètes avaient parlé, pour lesquels il était venu, ne comprenant pas, il a fallu qu'il soit arrêté sur la route de Damas. De Damas, alors qu'il allait persécuter ceux qui avaient cru dans la voie, c'est-à-dire en Jésus-Christ le Seigneur, pour les mettre en prison. Il était habilité avec des lettres de créance, avec toutes sortes d'autorisations pour arrêter ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Nous voyons ça à travers toute l'histoire. L'opposition de Satan, du serpent, contre ceux qui croient en Jésus-Christ et qui veulent vivre de sa vie. Et c'est ainsi qu'il a été arrêté sur cette route de Damas, jeté à bas de son cheval, et que Christ lui-même s'est révélé à lui. Voilà. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il est rentré à Damas aveugle, il avait perdu la vue. Au lieu de rentrer en conquérant avec les soldats qui l'accompagnaient, il était conduit par la main comme un aveugle et il était choqué, bouleversé. Vous connaissez son histoire, bien sûr. Je retrace quelques aspects de son histoire pour bien nous situer. L'apôtre Paul, il est devenu un grand missionnaire, un grand prédicateur. Dès l'instant où il a connu Jésus-Christ, il est devenu un grand prédicateur de la bonne nouvelle. Dieu l'a utilisé, mais à travers combien de souffrances? Il a parcouru toute l'Asie mineure, il a parcouru l'Europe pour y porter le feu de l'évangile de la Pentecôte. Cette Pentecôte que les apôtres ont reçue sur eux au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Jésus avait dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et l'apôtre Paul lui-même, après qu'Ananias, dans la ville de Damas, ait prié pour lui et qu'il ait retrouvé la vue, il a reçu cette expérience du baptême du Saint-Esprit là à Damas. Et c'est ainsi qu'il est allé annoncer cet évangile à travers toute l'Asie et à travers l'Europe. Il a reçu l'esprit de la Pentecôte. Il a payé le prix du message duquel il était chargé d'apporter à cette époque-là à ses contemporains. Partout où il passait, il y avait des réactions. Partout où il passait et où il apportait ce message, il y avait des réactions. des réactions positives et des réactions négatives. Et les réactions négatives venaient des religieux de son temps. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons ce même scénario. Ceux qui prêchent cet évangile de la Pentecôte, n'est-ce pas, sont vus de façon bizarre par ceux qui sont simplement religieux. On parle d'eux comme étant des gens détraqués, comme étant des gens rêveurs, comme étant des, entre guillemets, fanatiques, et avec toutes sortes d'argumentations, en cherchant à les mélanger avec toutes sortes de sectes tellement nombreuses qu'on voit aujourd'hui dans notre monde, en les mettant tous dans le même paquet, sans essayer de comprendre. Frères et sœurs, nous ne sommes pas une secte, loin de là, mais nous sommes des prédicateurs de cet évangile qu'a apporté les apôtres, qu'a apporté Paul, l'apôtre Paul, qu'ont apporté tant de héros à travers l'histoire de l'Église, tant d'hommes qui ont même donné leur vie pour leur foi. Quand je pense qu'autrefois, même ici en France, posséder une vie, une Bible, était un crime d'État et on était brûlé vif. Rien que parce qu'on possédait une Bible, on considérait que certains personnages religieux seuls étaient capables de lire la Bible et de l'interpréter. Et c'était hors la loi de vivre la Bible ici, dans notre pays de France. N'est-ce pas? À tout moment, il y a eu ceux qui se sont opposés à cet évangile. Opposés à cet évangile. Le serpent, ancien Satan, a toujours essayé de détruire d'une façon ou d'une autre ceux qui voulaient croire à cette parole et qui voulaient vivre cet évangile en croyant en Jésus-Christ le Sauveur pour sauver et pour guérir, pour transformer, pour donner un espoir, une joie réelle, une paix profonde à ceux qui cherchent et qui sont malheureux et qui sont dans les ténèbres, qui cherchent à être délivrés de chaînes, quelles qu'elles soient. Et cette délivrance, la religion ne peut pas la donner. La religion ne peut pas la donner, mais Jésus-Christ le Seigneur, car c'est lui qui nous aime. Il nous aime, il a payé le prix de notre rançon à Golgotha. Paul a dû apprendre toutes ces choses de façon difficile, bien souvent. Il a chassé les démons, il a guéri des malades. Souvent, il a enduré l'opposition, la haine de la part des gens de son propre peuple, issus du judaïsme. Judaïsme, oui, c'était une religion, disons, entre guillemets, j'aime plus tellement ce terme de religion, parce que ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. On en a fait une salade incroyable. Toujours est-il que le judaïsme, c'était une foi, c'était un système religieux, institué par Dieu, par Moïse, selon le commandement de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a accompli la loi, il n'a pas effacé la loi et les commandements, loin de là, mais il l'a accompli en amenant une dimension nouvelle, la dimension de la grâce. La grâce est du pardon. Il y a, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, il y a une marche à suivre, une marche, une révélation progressive du Dieu puissant qui aime les hommes et qui veut les sauver. Au milieu d'une jungle, si je puis dire, de toutes sortes de cultes, de croyances, d'autrefois jusqu'à aujourd'hui. Et son action ne s'est pas arrêtée. Et aujourd'hui, il a encore un peuple d'hommes et de femmes qui croient dans sa parole, qui annoncent cette parole, qui vivent cette parole et qui appellent les hommes de notre génération à venir à Christ à travers la nouvelle naissance, c'est-à-dire la repentance, et à devenir des enfants de Dieu. Donc, il a souvent dû endurer l'opposition, la haine de la part des gens de son propre peuple, issu du judaïsme, qui n'acceptait pas Jésus-Christ, le Messie. Et il ne voulait pas accepter non plus que le salut était désormais accessible aux païens. Il pensait que ce n'est que nous, juifs, israélites, qui sommes héritiers de la promesse d'Abraham. Ce n'est que nous, et non pas les païens. Or, Christ n'a jamais, jamais méprisé les nations non-juives. Il a voulu, à travers la nation juive, se révéler à eux et les faire parvenir au salut et à la vie éternelle par la foi. Lors de son dernier passage à Jérusalem, nous parlons de Paul donc, il y eut une telle émeute provoquée par les chefs religieux que toute la ville fut bouleversée. Si bien que les autorités païennes, romaines, ont dû s'interposer et même protéger la vie de Paul. La haine est grande contre lui de la part des religieux. Une haine terrible. Partout où il a porté l'évangile, les Juifs se sont dressés contre lui systématiquement et ont excité les autorités païennes contre lui et contre le message qu'il apportait. Jésus avait dit lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, avant d'être crucifié, il avait dit ceci, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Partout où Paul passe, le feu du Saint-Esprit de la Pentecôte brûle. Brûle. Et malgré l'opposition, des multitudes se tournent à Jésus-Christ. De multiples églises sont établies. Avec la Pentecôte, nous sommes rentrés dans la dispensation, autrement dit dans la tranche de temps, dans la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église, corps de Christ. L'Église n'est pas une religion, l'Église n'est pas une dénomination, l'Église est composée de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ par grâce et par la foi et qui marchent en nouveauté de vie. Je suis loin de proclamer que le pentecôtisme est la seule église qui fait parvenir un homme au salut. Je suis loin à proclamer que le protestantisme, sous quelque forme que ce soit, soit le seul chemin pour parvenir au salut. Non ! Vous pouvez être pentecôtiste, être perdu. Vous pouvez être catholique, être perdu. Vous pouvez être protestant, être perdu. Le seul chemin du salut, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Et je ne suis pas un proclamateur d'une religion, mais je suis un proclamateur d'un homme, c'est-à-dire Jésus-Christ qui s'est fait homme pour sauver l'humanité du péché. Voilà. Et c'est pour cela que je suis dit, que je vous répète, nous ne sommes pas une secte. Mais nous sommes des proclamateurs de l'évangile tel que nous le voyons dans la parole de Dieu. Cet évangile primitif que prêchaient Paul et les apôtres. Voilà. Et le feu de la Pentecôte l'accompagnait. Et malgré l'opposition, de multiples églises donc sont fondées et des milliers d'âmes sont sauvées. Maintenant, Paul arrive à la fin de sa carrière. Prisonnier, il est envoyé à Rome pour comparaître devant César. Il était de nationalité, quoique juif, il était de nationalité romaine. Il avait hérité par ses parents la nationalité romaine. Et il y avait des lois particulières qui protégeaient les Romains à cette époque-là. Et il a fait appel à César lorsque, accusé par son peuple qui cherchait à le faire mourir, il avait fait appel à César. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas délivré de ses ennemis? Mes frères, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Voilà. Si Dieu veut vous utiliser dans un chemin difficile, quel qu'il soit, il sera avec vous. Mais la volonté de Dieu est que cet évangile soit prêché dans la maison de César. Cet évangile soit prêché à Rome, dans la ville de Rome, au milieu de ces païens idolâtres. Voilà. Parce que Dieu désire le salut de ces païens. Il désire le salut de ces Romains. Il désire le salut des Africains, des Congolais. Il désire le salut des Français, quoique beaucoup lui tournent le dos aujourd'hui. Il désire le salut des hommes à travers l'humanité tout entière. C'est son désir. Voilà. Le salut. Écoutez, écoutez. Notre vie est tellement courte, ne pensez-vous pas? Je suis arrivé à 78 ans, en novembre, j'aurai 78 ans. Moi, je ne me sens pas vieux du tout, absolument pas. Non, 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 non. Et je pense que la vie est terriblement courte. Combien d'années me reste-t-il? Ça, c'est pas mon affaire, c'est son affaire. Je suis son esclave. Mais pour dire que chacun d'entre nous, nous avons une échéance. Où allons-nous passer l'éternité? Nous sommes à l'école ici-bas sur la terre. Nous sommes à l'école. Quel genre d'élèves sommes-nous? Pourquoi Dieu ne le délivre-t-il pas? Eh bien, simplement, Dieu a un plan avec sa vie et il l'utilise pour sa gloire et pour amener l'évangile là où personne d'autre ne pourrait l'amener. Dieu utilise l'épreuve bien souvent, les luttes, les problèmes créés par l'ennemi pour confondre l'ennemi. Voilà. Pour un but, Dieu ne nous a jamais promis une vie merveilleuse sans problème. Non. Au contraire, dès l'instant où nous avons décidé de marcher avec Jésus, nous engageons un combat, car tout est contre nous. Le monde est contre nous, nos amis de travail sont contre nous et se moquent de nous. Et les circonstances sont contre nous, l'ennemi est contre nous, nos propres parents nous regardent comme étant des gens un peu déréglés et nous critiquent. Que sais-je encore? Dès l'instant où nous acceptons de vivre selon la parole de Dieu, en obéissance avec Jésus-Christ et que nous parlons de lui, nous aurons le monde contre nous. Peu importe, nous sommes du côté du vainqueur. Nous sommes du côté de celui qui a réservé une place pour nous dans l'éternité. Les luttes, les problèmes créés par l'ennemi vont le confondre lui-même. Demeurez ferme dans la foi. Ne lâchez jamais. Nous sommes tous engagés dans une guerre. Paul est prisonnier. Mais par ce moyen-là, l'évangile sera proclamé à Rome, dans la maison de César, à travers tous ces politiciens de l'époque. Nous ne connaissons pas tout ce qui s'est passé à cette époque-là, mais tout ce que nous savons, c'est que Paul avait une certaine liberté quand même, sous la garde de soldats romains, et qu'il pouvait réunir une assemblée et annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et quels étaient ces gens auxquels il a annoncé Jésus-Christ? Nous ne le savons pas, nous ne les connaissons pas. Mais croyez-moi, un témoignage a été semé, une semence impérissable. Nous le saurons dans l'éternité. On peut se poser, mais pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de difficultés? Tous ces dangers, merci frère, tous ces dangers, toutes ces fausses accusations, sur cet homme de Dieu, sur cet homme de Dieu, pourquoi encore ce naufrage? Alors qu'il va à Rome, sous la garde de soldats romains, et puis avec d'autres prisonniers, voilà ce naufrage, jeté là sur l'île de Malte. Il pleut, le bateau s'engage et échoue sur la rive, les vagues sont énormes, le bateau se disloque, mais pas un des passagers ne périsse, c'était la promesse du Seigneur. Lisez le texte, vous verrez vous-même. Et là, les barbares, comme il est écrit, ont eu pitié de ces gens trempés, mouillés, il fait froid, ils ont fait un grand feu, nous est-il dit. Ils ont allumé un grand feu. Quel réconfort pour ceux qui ont froid. Un grand feu, c'est ce feu, cette chaleur, c'est la vie elle-même, l'espoir et le bien-être qui revient, qui est offert, qui est donné par la chaleur qui se dégage du feu et cette lumière que dégage ce feu, c'est comme un espoir, c'est comme un réconfort, ces gens tout mouillés, alors que la pluie, une pluie glacée tombe encore, le vent souffle. Il n'y a pas de substitut à la chaleur. Pour l'avoir, il faut du feu. Bon, en Afrique, en général, il fait assez chaud. Mais dans nos pays froids, quand il y a la neige et qu'il fait froid, eh bien, on est tout content de se réchauffer auprès d'un feu quelconque. Aujourd'hui, on est moderne, on a des radiateurs électriques, des radiateurs d'eau chaude, à eau chaude, et toutes sortes de moyens de se réchauffer. D'accord. Mais on a besoin de chaleur pour vivre. Donner à un homme qui est en train de geler de froid, en général c'est de froid qu'on gèle, donner à un homme qui a froid la meilleure littérature à lire, ça ne va pas l'intéresser. Il est transi, il tremble, il n'est pas intéressé par votre littérature. Donnez-lui une grosse somme d'argent, il la regarde, d'accord, mais j'ai froid. L'argent ne l'intéresse pas particulièrement à ce moment-là. Essayez de l'intéresser à une belle œuvre d'art, un beau tableau magnifique. Son intérêt n'est pas là, il a froid. Il ne veut que se réchauffer. Présentez-lui le meilleur repas qu'on puisse préparer. On est fort pour faire des bons repas en Europe. La cuisine en France est excellente, n'est-il pas vrai? Mais il a froid, il est transi. Le manger ne l'intéresse pas. Il faut d'abord se réchauffer. Rien de tout cela ne l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est du feu. Il a besoin de chaleur pour vivre. Rien ne remplace ce feu qui est la vie qui représente pour lui la vie. Elle est indispensable à l'existence de la vie, la chaleur. Indispensable. De même, nous avons besoin de la chaleur de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de la Pentecôte, pour nous garder en vie, actifs, effectifs. Lorsqu'on a froid, les mains gelées, le corps transi, essayez de travailler, de tenir une pelle, de tenir un marteau, essayez de travailler une mécanique, quelle qu'elle soit, peut-être microscopique, à travailler sur un ordinateur pour le réparer avec des mains glacées. Et tout cela, on n'arrive pas. Tout est engourdi. Eh bien, bien souvent, malheureusement, c'est ce qui arrive dans nos églises. On manque de cette chaleur que donne la Pentecôte, de ce dynamisme, de cette chaleur qui nous pousse à l'action. On manque de cela. On est comme engourdi dans ses prières, engourdi dans ses chants, engourdi dans son témoignage, engourdi. On vient à l'église tout simplement parce qu'il faut venir à l'église, c'est la tradition. On est chrétien, donc il faut venir au moins une fois par semaine à l'église. Mais tout est glacé, tout est froid. On est là dans un coin, on attend surtout que ça ne dure pas trop long. Le feu de l'esprit est nécessaire à notre vie spirituelle. Voilà ce que j'essaye de dire. Le feu de l'Esprit est nécessaire à notre vie spirituelle. Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3, 11, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Mais il ne s'est pas arrêté là. « Et de feu !» Voilà. Il y a un feu qui vivifie, mais il y a aussi un feu qui détruit. Que choisissons-nous? Le feu du jugement qui détruit ou le feu qui vivifie, qui donne la vie et qui nous aide à partir dans l'action avec dynamisme, avec courage, avec foi. Sans l'esprit, il n'y a que la froideur glacée de la mort. Sans l'esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le feu qui vient d'en haut, il n'y a que la froideur glacée de la mort. C'est ainsi qu'il y a des églises froides dans notre monde. C'est ainsi aussi qu'il y a des cœurs froids, il y a des religions froides. On y vient, mais c'est froid, c'est glacé. Il n'y a rien pour réchauffer le cœur, il n'y a rien pour réchauffer l'âme assoiffée, désespérée, dans la peine, dans la souffrance. On cherche un secours, un espoir, on ne trouve rien que des paroles vides de sens, des traditions, des paroles automatiques qui sont prononcées ici et là d'une certaine façon, mais qui ne répondent pas aux besoins désespérés du cœur. Frères et sœurs, pourquoi rester dans cette froideur? Pourquoi accepter cette froideur qui n'apporte rien à l'âme? On reste glacé. On ne peut rien faire, rien comprendre. Et le désespoir vous saisit. Des cœurs froids, des religions froides, des églises froides. Seigneur, réchauffe-nous. Seigneur, tu nous as bénis déjà, mais nous voulons plus encore. Tu nous as donné déjà, mais nous voulons plus encore. parce que nous savons que tu es un Dieu riche et ta richesse ne peut jamais être épuisée. Les gens qui y sont dans ces religions froides sont insatisfaits. Ils désirent la chaleur de la vie. La tempête de la vie nous a jetés sur une île battue par les vents et par les vagues. Pour combien d'hommes et de femmes ils étaient à naviguer sur les océans de la vie, mais les tempêtes de cette vie les a jetés sur une île déserte, alors qu'ils avaient mis leur cap dans une certaine direction, à cause des circonstances, à cause des problèmes politiques, à cause des problèmes économiques, à cause des problèmes familiaux. Ils sont, pour ainsi dire, jetés, naufragés. Combien de jeunes sont naufragés aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien trouvé dans leur famille? Ils se donnent à la drogue, à la débauche, au sexe illicite, à toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que naufragés quelque part, personne n'a su les aider. Leur barque a fait faillite. Leur vie a fait faire faillite. Pourquoi vivre? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà la philosophie de notre monde. Jetés par les vagues sur cette berge d'une île déserte. Déserte. Vous, naufragés, battus, transis, il vous faut la chaleur de la vie, la chaleur pour vivre. Je vous recommande, venez à Jésus, il vous réchauffera le cœur, l'âme, l'esprit. Jetez-vous à genoux, où que ce soit, en secret dans votre maison, pleurez devant lui et dites: Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis naufragé, je suis désespéré, je suis malade, les médecins ne peuvent rien pour m'aider. Seigneur, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de moyens, ma famille m'a abandonné, ils se moquent de moi, je suis délaissé, viens à mon secours. N'es-tu pas sa créature? N'es-tu pas celui qui, dans lequel il a soufflé ce souffle de vie qui se trouve en toi? Il ne t'ignore pas au milieu de la foule, il te voit au milieu des foules qui se croisent dans cette grande ville de Paris où personne ne te connaît, lui te connaît, il te voit. Il voit tes problèmes, tes besoins et il est prêt. Si seulement tu lui demandes humblement, si seulement tu pleures à tes pieds, il est prêt à répondre à tes besoins les plus intimes, les plus cachés. Paul et ses compagnons s'approchent là d'un feu qui a été allumé sur la berge. Et chacun y jette des broussailles qu'il ramasse à gauche et à droite. Mais voici que dans celle que Paul a apportée là pour jeter dans le feu, il y avait une vipère. Il fait froid, bien sûr, il fait froid. Et nous savons très bien que les serpents, lorsqu'il fait froid, en hiver, ils hibernent. Ils sont là roulés dans un trou quelconque. Leur métabolisme est ralenti. Leur cœur bat tout doucement, très lentement, simplement pour irriguer les parties vitales principales. Ils hibernent. Mais voilà, la chaleur réveille la vipère. Ah oui, toutes les vipères se réveilleront à la chaleur, croyez-moi. Sachez que si vous êtes engagé à ranimer le feu de l'esprit, le feu de la foi dans les miracles, dans la sainteté, par la puissance de Dieu, des vipères sortiront, fuyant la chaleur et s'attacheront à vous pour vous détruire. Ça, c'est un principe que nous voyons à travers toute l'histoire, dès l'instant où des hommes et des femmes de Dieu se sont levés avec la puissance du Saint-Esprit pour annoncer cette parole, pour la vivre, pour témoigner. Il y aura des vipères qui se réveilleront, oui, dans l'Église même. Pourquoi elles se réveillent? Parce que maintenant le feu est là. Avant, elles n'étaient pas là et les vipères dorment. Croyez-moi que lorsque vous annoncez cet évangile, il y aura des réactions. Il y a poison dans la morsure de la vipère. Et le feu va l'exciter. Elle cherchera à vous mordre, cette vipère. Le feu va l'exciter. Avant, elle dormait. Oh, laissez-la dormir, on est bien tranquille. Laissez-la. Oui, mais la vipère est au milieu de vous. Voilà, sachez-le bien. Et nous ne pouvons pas vivre dans le froid, dans l'indifférence. Il nous faut la vie, le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte, c'est un feu qui purifie. Et ce que Dieu veut, c'est une église pure, une église bouillante, une église conquérante. Voilà ce qu'il veut. Et il veut que chacun soit stimulé par le feu de l'esprit. Et même si les vipères qui sont là se réveillent, peu importe, elles brûleront dans ce feu. Le feu va exciter cette vipère. Elle cherchera à vous mordre. J'ai vu ça combien de fois dans ma vie. Oh là là, lorsque nous sommes venus là dans ce pays du Congo, il y a quelques années, et que nous prêchions ce message, les vipères se sont réveillées. Elles ont craché leur venin. C'est un communiste. Il est venu de Brazzaville, qui est une ville qui est sous le régime communiste maintenant, pour, sous le couvert d'une église, travailler contre le pays. Qui disait cela? Des religieux, soi-disant chrétiens, arrêtés. Oui, j'ai été arrêté, insulté des journées entières. Voilà. Mais je disais le moins possible. Pourquoi? Parce que je savais qui était derrière, c'était Satan. Ce n'est pas toi qui m'insultes maintenant, qui est le grand coupable, non? Mais c'est celui qui te pousse derrière, Satan, la vipère. Il crache son venin. Crache ton venin! Je suis immunisé par le sang de Christ. Mais ne lâche pas, ne lâche pas. Tu as quelque chose à faire. Secoue ta main au-dessus du feu et la vipère brûlera. Voilà. Nous avons été accusés de bien des choses. Des convocations à la police, des convocations à la justice, au tribunal, accusés de toutes sortes de choses, accusés d'avoir brûlé des maisons avec des enfants dedans, d'avoir volé de l'argent, accusés. Prouvez ce que vous dites. Je sais qui m'a envoyé. Et pourquoi m'arrêterais-je? Il voulait me faire peur pour me faire quitter le pays. Et non, je sais qui m'a envoyé ici. C'est lui qui a toute autorité. Quand il y a le feu de l'esprit qui brûle et que l'église est bouillante, vous risquez. Ah oui, sachez bien, mes frères, que si le feu brûle et que l'église de Jésus-Christ, je ne parle pas de religion là, je parle de la vraie église, là où se trouvent des enfants de Dieu nés de nouveau qui vivent une nouvelle vie. Quand ce témoignage est porté tel qu'il doit être porté, n'est-ce pas? Il y aura opposition. Vous êtes dans le risque. Eh bien, si vous voulez être un chrétien et ne jamais rien risquer, sachez que vous allez être un très mauvais chrétien. Vivre la vie de Christ dans ce monde, il y a un risque. Un risque, toutes sortes de risques qui ont toutes sortes de nuances, extrêmes même. Quand on voit dans les pays musulmans, simplement d'être chrétien, c'est hors la loi, on doit vous tuer. Dernièrement, je lisais cette histoire en Afghanistan, de cet homme qui suivait avec tout un groupe d'autres hommes musulmans, chacun d'entre eux, et qui marchait avec eux pour fuir je ne sais pas quoi. On fuit tout le temps là-bas, évidemment, comme vous le savez. Et puis, ils sont arrêtés dans un endroit où il y avait une buvette, et ils prenaient tous quelque chose à boire. L'un d'eux était chrétien, quelle dénomination, je ne sais. Toujours est-il qu'il buvait avec les autres, et à un moment donné, quelque chose est tombé par terre, il l'a ramassé, il avait autour du cou une croix, et ils l'ont vu. Grand scandale. Sur place, on l'a battu à mort. Eh oui, il y a un risque. Porter le nom de Jésus-Christ, il y a un risque pour des milliers d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, vous avez encore la liberté ici en France, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ne nous abusons pas nous-mêmes. Il y a un risque si nous voulons vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Il y a un risque. Combien de chrétiens n'ont-ils pas été assassinés à travers le monde? Je ne parle pas d'autrefois, ça s'est passé, nous le savons, l'histoire nous le dit. Mais dans les temps présents, massacrés, soit en Irak, des populations entières massacrées parce qu'ils étaient chrétiens. Voilà. Et dans, sur leur carte d'identité, il faut marquer quelle est la religion. On les arrête, on leur demande leur carte. C'est marqué chrétien, abattu sur place. Je raconte des choses qui se passent aujourd'hui. Dans notre monde dit civilisé, nous sommes devenus des gens éclairés. Voilà. Mais notre civilisation, sans Christ, n'a rien apporté à ces hommes et ces femmes qui vivent dans les ténèbres et le fanatisme religieux. Combien de fois le christianisme a été mal représenté dans ces pays, mal représenté par des chrétiens ivrognes, par des chrétiens infidèles à leurs femmes, par des chrétiens magouilleurs et tout ce que vous voulez. Quel genre d'image du christianisme avons-nous montré alors que nous sommes allés dans tous ces pays autrefois dans les anciens temps pour les coloniser? Qu'avons-nous apporté à ces gens avec notre christianisme? Christianisme falsifié de forme extérieure, mais non pas de démonstration de chaque individu de ce qu'est le véritable christianisme, à tel point qu'on n'en veut plus. Je l'ai entendu en Afrique. J'ai entendu au moment de l'indépendance de nos pays, nos anciennes colonies de l'Afrique. Le Dieu du blanc n'a pas de puissance. Nos dieux à nous ont plus de puissance. Des puissances sataniques, évidemment, je l'ai vu, ils font des choses extraordinaires avec la puissance de Satan. Mais nous sommes habitués à un rituel, à des prières dites automatiquement, à une religion d'extérieur, sans démonstration réelle, une apparence, à tel point que ces gens qui croient dans le surnaturel, ils ne le voient pas chez nous, dans notre christianisme falsifié. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de guérison possible par la puissance de Jésus-Christ, parce qu'on n'y croit pas, c'est une théorie. On est devenu matérialiste, et c'est pour cela que Dieu nous a chassés de tous ces pays, parce que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Nous avons apporté notre civilisation dite chrétienne sans que ce soit un véritable christianisme de changement de vie et de changement de cœur. Faillite du christianisme, mais pas faillite de Jésus-Christ. Il n'a pas fait faillite. Et gloire à Dieu de ce que même dans ces pays là-bas, aujourd'hui, il s'élève des hommes et des femmes qui ont compris, qui sont venus à la Bible, qui croient à cet évangile lorsqu'on le prêche tel qu'il doit être prêché, et qui se tourne à Christ tous les dimanches alors que je prêche dans notre grande église à Kinshasa. Il y a des hommes et des femmes qui se donnent à Jésus-Christ. Il n'y a pas un culte qui se fait sans appel au salut. Et ils se lèvent, 80, 100, 150 personnes qui se lèvent. Moi, je veux cet évangile. Moi, je veux cet espoir. Parce que je n'ai plus d'espoir. L'indépendance ne nous a rien apporté. La politique ne nous a rien apporté. Ce n'est que la corruption partout. Ce n'est que le mensonge partout. Ce n'est que religiosité sans réalité. Je veux ce que vous apportez. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Je l'ai entendu. Et j'ai vu tel homme. J'ai vu telle femme. J'ai vu le changement qui s'est passé en eux. Je veux ce Jésus que vous possédez. Voilà le christianisme qui pourra changer ce monde et la société. Et ceci dépend de chacun de nous. Ça ne dépend pas que du révérend pasteur. Non, ça dépend de chaque individu de l'Église de Jésus-Christ. Nous devons porter un témoignage et vivre ce que nous croyons. Si nous ne le vivons pas, nous n'avons rien de plus que les autres. Quand il y a le feu de l'Esprit qui brûle, que l'Église est bouillante, vous risquez, oui c'est vrai, mais croyez mes amis, Jésus a risqué beaucoup pour nous, pas vrai? Nous sommes ses disciples. La vipère est là, de toute façon, mais la chaleur la réveille. Merci, j'ai beaucoup à boire maintenant. Quand il fait froid, les serpents hivernent, nous le savons. Quand l'esprit est froid, le serpent hiverne, Satan. Il y a donc une terrible alternative. Geler de froid ou risquer d'être mordu par le serpent. Que choisissons-nous? Dès l'instant où le feu de l'esprit brûle, le serpent s'éveille et chacun cherche à donner la mort. Dès que l'instant où l'esprit, où le feu de l'esprit brûle, le serpent cherche à donner la mort. Matthieu 3, 11. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous l'avons lu tout à l'heure. Mais il a dit aussi dans Marc 16, 18, « Ils saisiront des serpents, ils ne leur feront point de mal. Courage ! N'ayez pas peur du serpent. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, quand le feu brûle dans nos âmes, ceux qui sont autour de nous s'en aperçoivent et savent que quelque chose s'est passé. Que quelque chose s'est passé en nous. On réalise que les paroles mêmes qui sortent de la bouche de l'homme qui brûle ne viennent pas de lui. Ça ne vient pas de lui. L'homme est incapable par lui-même de dire de telles choses, non. Mais ceux qui l'entendent diront ce que les disciples ont dit sur la route d'Emmaüs lorsque Jésus marchait avec eux et qu'ils ne l'avaient pas reconnu. Ils ont dit ceci, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait ? Amen. Amen. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ? Le diable est dérangé par ce genre de feu. Il n'aime pas ce genre de feu. Il n'aime pas une église bouillante. Ainsi, il va s'attacher à essayer de détruire ceux qui raniment ce feu. Ranimons le feu de la vraie Pentecôte. Nous ne voulons pas de feu étranger. Non, non. Vous connaissez l'Ancien Testament. Vous avez lu l'Ancien Testament. Nadab et Abihu, qui apportèrent du feu étranger à l'Éternel. Le feu devait venir de l'autel. Voilà. Le feu devait venir de l'autel. Et pour nous de même, nous ne sommes pas là pour exciter les gens, pour fabriquer un feu étranger. Le feu doit venir de l'autel appelé Golgotha. C'est là l'autel. L'autel où le sacrifice a été offert pour le salut des hommes. En foi de quoi le feu de la Pentecôte est tombé en ce jour-là. Le feu, ce n'est pas un feu fabriqué. Et nous le voyons trop dans nos églises, même dites de Pentecôte, pour attirer la foule. On essaye toutes sortes d'artifices. On invite des groupes de rock du monde. Ils se disent chrétiens. Mais il n'y a pas de différence entre leur musique et la musique des drogués de ce monde. On amène dans notre église, peut-être pas ici, mais je l'ai vu ailleurs, aux États-Unis, par exemple, pour attirer la foule, toutes sortes de musique folle pour attirer la jeunesse. Il faut plaire à la jeunesse. Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ, dans sa puissance, n'est pas suffisant pour attirer les jeunes ? Il nous faut amener les artifices du monde pour essayer de les attirer. Mes frères, revenons à l'autel de Golgotha. Prenons le feu qui est sur l'autel. Voilà celui que Dieu acceptera. Ne faisons pas comme Nadab et Abihu qui apportèrent un feu étranger à l'Éternel. Et la colère de l'Éternel se manifesta contre eux. Et le jugement tomba sur eux. Parce qu'ils avaient amené un feu étranger. Combien de fois nous essayons d'adapter les choses du monde dans l'Église simplement pour plaire aux gens. Un feu étranger. On a copié quelque chose qui se fait dans le monde. On l'amène dans l'Église. Une méthode du monde. Une façon de s'exprimer du monde. Que sais-je encore? Une façon des fois... Oh, je ne l'ai pas vu ici en France, mais je l'ai vu ailleurs dans d'autres églises, n'est-ce pas? La façon de s'habiller du monde, insolent quant à moi, des jeunes gens qui viennent adorer le Seigneur dans l'église, avec des blue jeans, avec des énormes trous partout, parce que c'est cool, comme on dit. Écoutez, si nous allons voir le chef de l'État, croyez-moi, M. Sarkozy ne recevra pas avec un vêtement plein de trous. Nous allons mettre notre meilleur pantalon, notre meilleure veste, une belle cravate et avoir une tenue qui convient, parce que ainsi nous l'honorons, n'est-il pas vrai? Mais nous avons rendez-vous avec le roi des rois. Oui, mais il est notre père, c'est vrai. Mais est-ce que votre père vous laisse faire n'importe quoi? Ah, s'il vous laisse faire n'importe quoi, alors vous allez grandir comme des enfants un peu sauvages, dévoyés, sans principe. Non, non, non. Moi, je crois au papa qui discipline ses enfants, pas vrai? Et qui les enseigne comment ils doivent se comporter. Voilà. Non, pas de feu étranger. Le feu vient du Saint-Livre. Le feu vient de la véritable Pentecôte. Le feu devait venir de l'autel. Quand Paul a voulu mettre les broussailles dans le feu, la vipère en sortit à cause de la chaleur. Et elle s'attacha à sa main. Quand un enfant de Dieu sortira de la routine, et des rites morts, je dis bien, quand un enfant de Dieu sortira de cette routine de rite mort, de la tradition religieuse, pour ranimer le feu de l'évangélisation, le feu de la prière, le feu de la sainteté, le feu de la vérité, le feu de la droiture, de la justice, le feu de la vraie foi dans la parole de Dieu, le feu dans les miracles, quand il mettra la main au travail dans l'Église, en réchauffant, en attisant le feu de l'Esprit, ce qui rendra le serpent furieux, alors le Seigneur prendra sa défense et cette Église remportera de grandes victoires. C'est ce que nous voulons, frères et sœurs. Oh, Dieu ne regarde pas au nombre, mais Dieu regarde au cœur. On peut avoir une église avec des milliers de personnes, mais s'ils sont tous glacés et gelés, et qu'ils ne sont pas réchauffés, à quoi cela sert-il? Il y a un monde à conquérir, il y a des âmes désespérées autour de nous, il y a des malades multiples, il y a des gens qui ne croient plus en rien car ils ont été déçus par la religion. Dites-leur qu'il y a quelque chose d'autre qui peut les réchauffer et répondre à leurs besoins. Et ça, c'est le devoir de chaque chrétien. Jésus est venu dans ce monde pour allumer un feu. Le diable ne pouvait en supporter la chaleur. Il s'est jeté sur l'homme de Nazareth et il l'a attaqué violemment. Mais plus il attaquait Jésus, plus Jésus attisait le feu. Acte 2, 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ce feu surnaturel de la Pentecôte, transmis à ses apôtres, brûlait toujours après son départ. Il est venu allumer un feu qui ne s'est point éteint jusqu'à aujourd'hui. La vipère était dérangée. Elle s'attacha à tout faire pour détruire la première église. Mais le miracle de Golgotha est complet. Jésus lui-même a ôté la force du poison de la vipère. Jean 16, 11. Le prince de ce monde est jeté dehors. C'est ce que Jésus a dit. Et Jean 12, 13, il est écrit, « Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le prince de ce monde, c'est cette vipère qui cherche à empoisonner les hommes jusqu'à aujourd'hui. Le serpent a fait que les premiers chrétiens furent battus. Ils furent jetés en prison. Ils furent mis à mort. Ils furent roués de coups. Mais ils se réjouirent d'être considérés dignes de souffrir pour Christ. Le feu brûlait dans leur cœur. Quand Étienne a été mis à mort, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, a pris sa place. Et il était touché, malgré la mort d'Étienne, par la constance et la vie démontrée d'Étienne. Les prisons ne pouvaient leur fermer la bouche. Le fer ne pouvait les arrêter. Ils marchaient sans peur contre les portes de l'enfer. Nous, ce temps se renouvelle aujourd'hui. Ce temps se renouvelle aujourd'hui. Dans combien de parties du monde, frères et sœurs, j'ai reçu un email il y a quelques jours d'une personne qui m'annonce que là-bas, en Kabylie, aujourd'hui, il y a une persécution systématique qui se fait contre les chrétiens. Au Maroc, beaucoup d'églises ont été fermées. Quoi qu'on proclame la liberté religieuse, certains missionnaires ont été interdits de rester dans le pays. Ils ont été chassés. En Kabylie, aujourd'hui même, alors que je parle, on jette des pierres aux chrétiens. On démolit certaines églises. On interdit d'agrandir des églises qui sont devenues trop petites. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui va venir demain ici dans notre pays? Ces temps se répètent et se répéteront encore. Mais croyez-moi, les naufrages ne peuvent noyer les enfants de Dieu. Et les morsures de serpents ne peuvent les tuer. Même si on les tue dans leur corps, pour un enfant de Dieu, c'est de passer de la vie à la vie, à une vie combien meilleure. Il est le maître. S'il faut donner notre vie pour notre foi, peu importe, nous avons une vie combien plus merveilleuse qui nous attend. Dans Marc 16, 18, ils saisiront des serpents, ils ne leur feront point de mal. Ni les serpents, ni les poisons. Comme ma femme vous a dit tout à l'heure, plusieurs de nos pasteurs ont été empoisonnés. Il y a des guerres terribles encore à l'Est, des guerres tribales, des guerres de tout genre. Nous allons jusque dans ces régions pour annoncer l'Évangile. La vie de ceux qui l'annoncent est en danger. Ils ont été empoisonnés plusieurs fois, mais le Seigneur les a secourus et les secourt encore. Quand l'Église dévie, elle se refroidit et accepte un feu étranger en laissant de côté la doctrine de la vie de l'Esprit pour s'attacher au matérialisme, quand elle abandonne le chemin de la sainteté, quand elle abandonne le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu et de la véritable foi dans le sacrifice de Christ et dans son sang qui purifie de tout péché, pour racheter le coupable, le serpent se calme et il n'y a plus de persécution. Mais chaque fois qu'un homme se lève pour ranimer le feu, afin que les hommes qui sont dans le froid et dans les ténèbres trouvent la lumière et la chaleur de la vie, les vipères se manifestent. N'ayez point peur des vipères. 1 Pierre 4, 12 nous dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » L'Église, Église de Jésus-Christ, ranime le feu. Le feu que tu as reçu d'en haut, attise-le. Il faut que le feu de l'Esprit brûle au milieu de nous. Mais préparons-nous à faire face aux vipères qui se manifesteront. Ne les craignez point. Faisons comme Paul. Secouons-les dans le feu. Elles seront consumées. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Souviens-toi, froid ou chaud, la vipère est là. Souviens-toi de cela et ne la crains pas. Job disait, Job 25, 13, sa main transperce le serpent fuyard. Et Ésaïe 27, 1, il est écrit, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Et vous savez que dans la parole de Dieu, la mer, c'est toujours le symbole des peuples, la mer des peuples. « Il tuera le monstre qui est dans la mer. » Pour nous, prêchons le plein conseil de Dieu en appliquant le véritable christianisme et sa discipline Alors, les chaînes du péché seront brisées, les malades seront guéris, les démons seront chassés et Jésus sera glorifié. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Oh, que le feu de l'Esprit brûle dans nos âmes! C'est ainsi seulement que nous pouvons faire une œuvre qui demeurera jusque dans l'éternité.